cours de théologie fondamentale par le père Philippe à Saint-Jodard le 11 octobre 89.
Nous allons continuer d'entrer dans cette théologie fondamentale. Une réflexion actuelle, tous les problèmes où il vous semble que l'affrontement entre foi chrétienne et notre culture d'aujourd'hui, notre milieu dans lequel on vit, il peut y avoir comme une sorte d'opposition. C'est nécessaire pour vous personnellement, et au point de vue apostolique, pour demain, et pour aujourd'hui aussi. Quand on voit des parents, des amis, ils vous posent tout de suite ces problèmes-là. Il faut que nous ayons réfléchi sur ces problèmes-là. Et c'est intéressant, ce serait intéressant du reste, un peu une fois, mettre en commun ça. Parce que c'est important, nous n'avons pas le droit de ne pas réfléchir à cela. Ça fait partie, vous voyez, de l'exigence de la théologie fondamentale, cette réflexion critique que nous devons avoir sur le problème de la foi, de la théologie, face à notre culture d'aujourd'hui. Et sûrement des problèmes très actuels sont là, devant nous. Mais alors, nous n'abordons pas ces problèmes-là, quoique ça ne me dérangerait pas du tout si, de fait, de temps en temps, on doit traiter un de ces problèmes-là. Ça faudra voir ensemble. Et vous le direz au père Gabriel si ça vous intéresse. Parce que je crois que ça peut être comme une illustration pratique de ce que représente ce problème de la théologie fondamentale, qui est capital. C'est pas du tout un problème second. Je crois que c'est très important. Et plus nous avançons, plus ce problème de la théologie fondamentale est important. C'est comme un problème ultime. C'est un petit peu comme le jugement de sagesse au point de vue philosophique. Ça, c'est le chemin de sagesse de la philosophie. Et je crois ça alors très, très important pour nous. Et ça doit être un petit peu comme une réflexion en commun, vous voyez. Et j'aimerais beaucoup, parce que ça fait partie de ce que les cours peuvent être pour vous plus immédiatement important. Si vous avez dans cette réflexion un chantier ouvert là-dessus. Alors, nous allons aborder cette année-ci, revenir sur un problème qu'on a déjà traité, mais il y a 3 ans qu'on l'a fait, de sorte que vous ne l'avez pas, et c'est capital. Mais encore une fois, j'aimerais que ça puisse être ouvert à ce problème de réflexion. De chacun d'entre vous. Parce que je ne veux pas énumérer tous les problèmes. J'aime mieux que vous les cherchiez. Oui. Ce serait intéressant. Chacun d'entre vous. Et vous remettriez cette feuille de réflexion personnelle en marquant au rouge les problèmes que vous aimeriez qu'ils soient traités. Et vous les remettriez au père Gabriel. Comme ça, on pourrait voir et se donner à nous-mêmes une liste de ces gros, de ces grands problèmes d'aujourd'hui. raison d'une mauvaise compréhension de la foi et d'une mauvaise compréhension de l'intelligence. L'intelligence se développant au point de vue mathématique. Vous voyez, foi et mathématique. Est-ce qu'on peut faire cet attelage? Ça s'est fait. Nicolas de Cuse avait une théologie mathématique des possibles. C'est un cardinal. Alors il n'a pas été condamné. Et du reste, il n'était pas condamnable. Mais c'est assez curieux. Foi et poésie. Peut-on allier les deux? Vous voyez, tout le développement de l'intelligence, ça on le verra après. Je vois d'abord la foi, puis on verra le développement de l'intelligence, puis on verra les alliances possibles. Voilà le plan qu'on va prendre. Alors, je regarde la foi, et je prends ici dans le traité de saint Thomas. Donc, comprenez ce que nous voyons, c'est dans la seconda seconde. La première question. La question de la foi. Ah non, mais si c'est le second homme. Je m'excuse. Je vais lire saint Thomas pour vous lire le texte, c'est plus important. Je peux le faire de mémoire, mais lavez-moi, vous l'avez là. On va leur donner à voir. Attendez une seconde. Vous voyez tout de suite la critique qu'on peut faire. Je prends le traité de la foi dans saint Thomas. Alors on va me dire, ce traité de la foi dans saint Thomas, c'est déjà une réflexion théologique sur la foi. Or, ce que nous dit saint Thomas sur la foi n'est pas de foi. Ça, c'est la première critique. Puisque je suis en théologie fondamentale, je dois tout critiquer. Vous voyez bien, entre nous, vous n'auriez pas tiqué, vous auriez dit très bien. Mais si ici, il y avait quelqu'un qui est dans une position de théologie progressiste, qui n'a jamais lu saint Thomas, et qui comprend qu'on doit faire une théologie avec Heidegger, ou avec la théologie protestante, Bultmann, ou avec Karl Barth, il dira, mais c'est ton intelligence, c'est ça que vous aimiez mieux le plus. Voyez, alors je prends l'étude de saint Thomas sur la foi. Pourquoi? Parce que je considère moi personnellement que cette étude de saint Thomas sur la foi me donne la vision théologique sur la foi la plus parfaite. Je n'ai pas beaucoup de traités sur la foi plus parfaits que celui de saint Thomas. Mais quelqu'un qui n'est pas thomiste et qui est dans la perspective donc moderne dira, mais tout ce que vous allez dire, c'est plus juste. Vous voulez une théologie fondamentale, critique, et vous avez un a priori. L'a priori, saint Thomas. Alors, puisque je suis en théologie fondamentale, je dois donc critiquer. J'ai dit non, ce n'est pas un a priori. Parce que saint Thomas est considéré dans l'Église comme le théologien. Je pourrais, si vous le voulez, regarder la foi dans un des théologiens modernes après. Et je vous montrerai que ce qu'il dit sur la foi n'est pas ce que l'Église dit. Parce que l'Église a défini elle-même la foi. Et saint Thomas est fidèle à ce que dit l'Église. Quels sont les deux grands conseils? concile sur la foi. Première chose à voir, concile d'Orange, Vatican I. Là, saint Thomas n'a pas connu Vatican I. Il a connu le concile d'Orange, 4e siècle, je crois. Et puis Vatican I, à la fin du siècle précédent. Qu'est-ce que dit le concile d'Orange? Le concile d'Orange regarde le point de départ de la foi, la naissance de la foi, en disant que la foi implique un premier amour, inclinant notre intelligence pour être capable de recevoir la parole de Dieu. Le point de départ, l'initio fidei, le point de départ de la foi, c'est la pia affectio, c'est-à-dire une affection pieuse aimante qui nous incline à croire. Vous ne pouvez pas croire sans amour. Et c'est pour ça que saint Augustin dit, celui qui croit veut croire. Et celui qui veut croire, croit. C'est aussi très important de se rappeler ça. Parce que vous rencontrerez des quantités de gens sur votre route qui vous diront, ah, comme vous êtes bien heureux de croire. Alors vous leur direz, et vous, est-ce que vous voulez croire? Ah, je comprends, mais je ne crois pas. Et vous leur direz, puisque vous voulez croire, vous croyez. Alors ils vous regarderont. Sans rien comprendre. Et vous expliquerez que vouloir croire, c'est croire. Mais ce sont ces paroles de saint Augustin qui sont très fortes et qui ont marqué toute la tradition de l'Église. Et que nous devons essayer de comprendre. C'est du saint Augustin. Vouloir croire, c'est croire. Pourquoi ? Parce que justement, le point de départ de la foi, c'est un amour. Vouloir aimer, c'est aimer. Mais on retrouve la même chose. Parce que la conception de saint Augustin, la volonté, c'est celle de saint Thomas. Ou celle de saint Thomas et celle de saint Augustin. C'est celle des Grecs. Et c'est pas la volonté cartésienne. Nous sommes rempli de l'esprit de Descartes, sans le savoir. Pour saint Augustin, la volonté est premièrement une capacité d'aimer. C'est pour ça que vouloir croire, c'est aimer. Parce que c'est le point de départ de l'amour. Il n'y a pas d'amour spirituel sans la volonté. Tandis que pour Descartes, la volonté est une volonté d'efficacité. Et l'amour est premièrement passionnel. C'est l'émotion. Tandis que l'amour spirituel, c'est un acte de volonté. La volonté est premièrement capable d'aimer. Et à partir de cet amour, il y a l'efficacité. Très important, ça, de comprendre ces deux actes de volonté. Volonté d'aimer et efficacité. Parce que ça fait comprendre, justement, ce qu'est la volonté. La volonté n'est pas premièrement une faculté d'efficacité. Elle est premièrement une faculté capable d'aimer. Or, ce premier amour, cette pia affectio, c'est un amour spirituel, c'est même un amour divin. C'est une grâce de Dieu. Je crois par la grâce de Dieu. Et cette grâce, je l'exprime. Ou j'en ai conscience par cette volonté de croire. Et donc, quelqu'un qui dit « je voudrais bien croire », il faut lui dire « vous avez une bonne volonté qui vient de Dieu ». Et donc, déjà, votre intelligence s'ouvre à la parole de Dieu. Et si vous allez jusqu'au bout, si c'est vraiment une volonté, c'est pas une velléité. Ce que beaucoup de gens disent, je voudrais bien croire, mais c'est purement velléitaire. Et quand on leur dit, mais croyez, ils ne veulent pas parce qu'ils savent très bien quoi ça va s'engager. Croire, ça nous engage, évidemment, à suivre Jésus. Alors, on force une velléité. Et psychologiquement, il ne faut pas confondre cette volonté vraie et cette velléité. Alors, il faut montrer à ceux-là qui disent ça, je voudrais bien croire qu'au fond, c'est pas du tout, ils ne veulent pas du tout croire. C'est une velléité. C'est pas la même chose du tout. Faites le discernement en vous, et vous pouvez facilement le faire, entre une velléité et une volonté de croire. Cette volonté de croire engage toute notre vie dans une orientation particulière, une orientation propre. Donc la pire affection, retenez bien ça, essayez de comprendre comment la foi implique un premier amour qui permet à l'intelligence de s'ouvrir, d'être réceptive. Grâce à ce premier amour, l'intelligence s'ouvre à la révélation, à la parole de Dieu. S'il n'y avait pas ce premier amour, il n'y aurait pas de foi. Puisque l'intelligence ne s'ouvre à la réalité que si cette réalité est présente à elle et évidente. Or, le mystère qui nous est communiqué par la révélation n'est pas évident. La parole de Dieu, c'est pas évident que c'est une parole de Dieu. Et donc, il faut que ce soit l'amour qui remplace l'évidence. C'est ça que le concile d'Orange nous dit. Et le Concile Vatican I nous dit que la foi est une adhésion de l'intelligence sous la motion de Dieu. Et que tout acte de foi implique une adhésion de l'intelligence. Le Concile Vatican I nous dit ça contre le modernisme. Qui dit que l'acte de foi, c'est un acte de confiance, uniquement affectif. Pour beaucoup de personnes, l'intelligence n'a rien à faire avec la foi. Vatican I nous montre que l'intelligence est présente dans tout acte de foi. Ce qui est très très important de se le rappeler. Je ne peux pas faire un acte de foi sans que l'intelligence soit présente. Si donc, votre intelligence est tordue par une idéologie athée, par la dialectique hegelienne. Si votre intelligence est tordue, vous comprenez bien que votre acte de foi sera beaucoup plus difficile à faire, puisque le support de l'acte de foi ne sera pas en harmonie avec l'acte de foi. Si votre intelligence adhère à des idéologies, elle est dans l'erreur, sans en avoir toujours conscience. Il y a des erreurs invincibles. Alors, si votre intelligence est dans l'erreur, elle ne peut pas coopérer avec la lumière de foi qui nous fait adhérer à la vérité. L'erreur ne peut pas coopérer avec la vérité. L'erreur est extrinsèque à la vérité. Et donc, votre acte de foi ne pourra pas avoir la plénitude. Alors, ce qui serait très intéressant, vous voyez, ça c'est un problème qui va se poser pour nous. Notre intelligence est une capacité vers la vérité. Notre intelligence implique aussi la raison. La lumière de foi, le lumen fidei, comme on dit, mon intelligence est éclairée de la lumière divine. Cette lumière divine ne vient pas de l'extérieur. Elle vient de l'intérieur. Donc, elle touche cette capacité. À quel niveau est-ce qu'elle touche cette capacité? Au niveau de la raison, au niveau de cette capacité en tant qu'elle est ouverte à la vérité. Ça, c'est un très gros problème. Je ne le résous pas maintenant, hein. Il faudra y réfléchir. Au fond, toute la théologie fondamentale repose là-dessus. À quel niveau, quand Dieu vous communique l'habitus de foi, qui correspond à cette lumière de foi, à quel niveau cet habitus de foi s'enracine dans mon intelligence? J'ai dit tout à l'heure qu'il fallait donc la pia affectio. La pia affectio, c'est l'Esprit Saint qui meut ma volonté à aimer la vérité révélée. C'est un premier amour très fondamental vis-à-vis de Dieu qui se révèle à moi. Ça vient pas de moi, ça vient de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui me donne cette bienveillance. Cette bienveillance vient de l'intérieur aussi, puisque Dieu agit toujours de l'intérieur. Qu'est-ce qu'elle touche dans mon intelligence? Est-ce qu'elle touche mon mode rationnel? Ou est-ce qu'elle touche l'intelligence en tant qu'elle est capax de la vérité? Il est bien évident qu'elle ne touche pas le mode rationnel. La foi n'est pas un raisonnement. La foi est une adhésion d'intelligence. Si la foi est une adhésion de l'intelligence, elle est donc un jugement. Voilà ce que l'Église me dit. Elle est un jugement. Adhérer. Le propre de l'adhésion, c'est un jugement. Ce n'est pas une appréhension. Puisqu'il y a jugement et appréhension. La foi tout de suite me donne un nouveau jugement. Un jugement éclairé par la lumière de foi qui détermine mon intelligence dans ce qu'elle a de tout à fait fondamental grâce à la pia affectio. Alors, à quel niveau se situe ce nouveau jugement? Je reviens à la question de tout à l'heure. Mon intelligence est abîmée par une idéologie. Une idéologie athée, Freud, ou le marxisme. Cette idéologie athée va infecter mon intelligence. À quel niveau? C'est important de savoir ça. Quand vous avez quelqu'un qui a été marqué profondément par le marxisme, on va en avoir comme ça, hein. À quel niveau leur intelligence a été affectée? Est-ce au niveau radical de l'intelligence capax, DI, l'intelligence capacité de la vérité, ou au niveau du raisonnement? L'idéologie marxiste, je prends l'idéologie marxiste, ou l'idéologie freudienne, n'est pas naturelle. Donc on l'a apprise. Ça c'est sûr, c'est pas un fût. Et c'est pas naturel. Il n'est pas naturel d'être marxiste. Il n'est pas naturel d'être freudien. C'est donc quelque chose que j'ai appris. Et c'est quelque chose qui s'est enraciné. faites des hommes de la miséricorde, mais la miséricorde, ça ne paie pas. Il faut l'efficacité. Parce que ça fait des gens qui ne sont pas à l'avant-garde. Oui, alors vous êtes un peu en retard. Vous êtes des témoins d'un âge qui était très beau au Moyen-Âge. C'était très bien au Moyen-Âge. Parce que c'était la fine pointe du progrès. Mais maintenant, vous n'êtes plus à la fine pointe du progrès. Vous êtes chrétien. Alors, Paris, c'est très impressionnant à ce musée de Moscou. C'est très bien fait, c'est très impressionnant. La personne qui intervenait de là, elle m'a dit tout de suite, mais je viens vous parler parce que moi ça m'a marqué. Alors, à quel niveau de l'intelligence se situe une idéologie comme l'idéologie marxiste? C'est quelque chose qui a été appris. On l'a reçu d'un autre. Donc, ce n'est pas de l'intérieur. C'est de l'extérieur. Moi, quand je vous enseigne toujours de l'extérieur. Je ne peux pas vous rendre plus intelligent. Mais quand on dit tel père, tel fils, c'est pas tout à fait vrai pour l'enseignement. Parce que le père, il regarde la capacité que les disciples ont. Et quelquefois, il y a parmi les disciples une intelligence supérieure. Saint Albert est en mode Aquin. Et la joie du maître, c'est de voir qu'il y a une intelligence supérieure qui passe devant. C'est la plus grande joie. De voir des petits nains qui courent par derrière, ça ne va pas. Non. Il faut qu'au contraire, l'intelligence passe devant. Mais bon, le démagistro de Saint Thomas, l'enseignement se fait par la parole. Et la parole éveille grâce à un raisonnement. Donc, on touche le point de vue de la raison. L'homme est éducable parce que c'est une intelligence raisonnable. Si j'étais un pur intuitif, je ne serais pas éducable. N'avez qu'à demander aux autodidactes. Il y a toujours des autodidactes. Et les autodidactes, ils ont une peine énorme d'écouter. Ils n'écoutent jamais. Parce qu'ils ont tout découvert eux-mêmes. Ils sont persuadés que c'est la grande manière. Tandis que quand on a compris que grâce à l'enseignement, on gagne énormément de temps, on doit...
C'est la même chose pour l'enseignement de la vérité de Saint Thomas.
des candidats de Tomise ont été enseignés. Ça s'est communiqué, la scolastique. Ils l'ont enregistré. Ils l'ont bien retenu, mais n'ont rien compris. Ils n'ont rien assimilé. Alors, n'ayant rien assimilé, ils récitent leurs leçons. Ils récitent de grosses bêtises. Et quand on leur demande, mais est-ce que vous avez compris? Ah, je vous dis ce qu'on m'a dit. Or, dire ce qu'on a dit, on reste dans l'ordre de l'opinion. Et l'opinion n'est pas au niveau de l'intelligence, c'est au niveau de la raison. Alors, ça c'est très important à comprendre, parce que ça fait saisir que l'intelligence, dans ce qu'elle a de plus profond, n'est pas touchée par une idéologie marxiste, une idéologie freudienne, une idéologie athée. C'est ma manière de raisonner qui est touchée. Mon intelligence reste affamée. Elle n'a pas la vérité. L'intelligence est faite pour la vérité. Si l'intelligence est faite pour la vérité, il faut qu'elle puisse se nourrir de la réalité. Elle ne se nourrit pas des idéologies. C'est des opinions. Et les opinions, ça ne nourrit pas l'intelligence. Ça nourrit la raison. Ah oui, c'est la formation. La formation, c'est très bien, c'est la raison. C'est pas l'intelligence. Alors, si l'intelligence n'est pas touchée, Dieu peut, de l'intérieur, c'est la différence entre le maître intérieur, comme dit saint Augustin, et le maître extérieur. Le maître intérieur, lui, touche directement l'intelligence. C'est pour ça que tout en étant marxiste, on peut être croyant. Vous voyez, parce que de fait, l'intelligence peut être touchée directement par Dieu et recevoir la lumière de Dieu. Alors à ce moment-là, j'aurai une intelligence intérieure qui est vraie et je l'exprimerai en termes marxistes. C'est montré dans l'Apocalypse, hein. Il a tel visage, il a la foi qui n'est pas correspondante à son visage. C'est un agneau, mais il a la foi du léopard. Il a la foi du dragon. C'est très curieux ça. On a tous vu ça. On voit des croyants qui sont qu'anciens. Clavel. Je voulais le rencontrer, j'aurais voulu le rencontrer. Je n'ai pas pu, c'était plusieurs fois. Mais c'était net, hein. Le dernier livre de Clavel, je suis plus qu'ancien que jamais. Il était converti, touché par la grâce. Et il avait une intelligence qu'ancienne. L'intelligence qu'ancienne n'atteint pas la vérité. Elle n'atteint pas le réel. Et il avait un langage qu'ancien, tout en étant croyant. Converti par la grâce. Mais restant conscient. Et donc disant que l'intelligence humaine est incapable d'atteindre l'existence de Dieu. Mais quand Dieu convertit quelqu'un qui est abîmé par une fausse philosophie, Dieu touche son intelligence. Et son intelligence résonante demeure une intelligence résonante. Quand vous avez un croyant qui est positiviste, ça existe. Vous voyez la dualité. Il parle en positiviste, mais dans le fond de son cœur, il croit. Dans le fond de son intelligence, il croit. On est tous un peu comme ça, du reste. Quand vous arrivez au noviciat, vous avez la grâce de Dieu qui vous fait croyant. Dieu a converti mon cœur. Mais mon intelligence résonante, la conscience que j'ai de mon intelligence dans mes raisonnements et dans ma parole reste touchée par le positivisme, reste touchée par le freudisme, vous voyez, reste touchée par le marxisme. C'est très important ça, de saisir ça. Donc la foi touche l'intelligence au-delà des idéologies. Plus profondément, la foi s'inscrit dans l'intelligence. Et la culture du XXe siècle est positiviste. En grande partie. En grande partie, elle est positiviste. Je suis un enfant du XXe siècle, il faut bien. Je suis parfaitement de mon siècle. L'accordéaire, il était d'une culture libérale. Et il le disait. Je suis né libéral et je mourrai libéral. Et il était croyant. Et donc il avait un langage teinté de libéralisme, rectifié par sa foi. Quand il prêchait à Notre-Dame, rectifié par sa foi, mais avec un, quand même des petites modalités. Il s'est mis à étudier saint Thomas pour rectifier ça. Mais c'est le lot de tous les convertis. Et aujourd'hui, c'est le lot de tous ceux qui ont reçu la culture de notre siècle, qui n'est plus une culture chrétienne. Teintée de freudisme, de positivisme, de marxisme, de tout ce que vous voulez, d'évolutionnisme, de toutes les idéologies athées. C'est un cocktail, notre culture, de toutes ces idéologies athées. Une culture de sécularisation. Une culture qui a rejeté le point de vue religieux. Et qui fait que... Et c'est vrai, c'est là le problème de la transmission de la foi. Parce que Dieu atteint de l'intérieur. Mais moi, quand je parle, je ne peux pas atteindre de l'intérieur. Je supplie l'Esprit Saint d'atteindre de l'intérieur. Mais je n'atteins pas directement l'intérieur. Vous savez, des petits gosses au catéchisme qui sont remplis de la télévision. Ils se couchent avec la télévision. Et après la leçon de catéchisme, la télévision. Et la télévision a un pouvoir beaucoup plus grand, puisque c'est imaginatif. Sur leur intérieur. Ah donc, comment arriver à dépasser cet écran du positivisme, du freudisme, de tout ça? Vous voyez, c'est le très gros problème aujourd'hui. Alors, c'est important de réfléchir là-dessus. C'est même capital. Notre langage de croyant, celui qui fréquente l'écriture, celui qui fréquente les prédications, qui fréquente les pères de l'Église, qui fréquente saint Thomas, petit à petit son langage devient un langage de croyant. Mais dans la mesure où il devient un langage de croyant, il n'est plus compris par ceux de ce monde. Et vous baignez dans saint Thomas, résultat, on ne vous comprend plus. Alors surtout ne vous plongez pas dans un Thomas. Alors qu'est-ce que vous ferez? Vous n'aurez plus rien à dire. Plongez-vous dans un Thomas, rectifiez votre intelligence et vous essaierez ensuite de voir comment il faut arriver à purifier l'intelligence de ceux qui sont en face de vous. C'est pas parce que nous sommes dans un monde d'aveugles que nous devenons aveugles. C'est pas parce que nous sommes dans un monde de borgnes qu'il faut devenir borgne. Rectifions notre intelligence pour être parfaitement croyants, pleinement, et que l'habitus de foi puisse s'enraciner pleinement en nous. Donc, vous voyez, ce petit problème très important, saint Thomas va nous aider de comprendre. La lumière de foi, l'habitus de foi qui touche l'intelligence, mais qui ne touche pas l'appréhension. Et c'est pour cela, comprenez bien, que la lumière de foi ne rectifie pas directement les idéologies athées. Les idéologies athées touchent l'appréhension. À un certain niveau. Et l'habitus de foi est donné comme un jugement. Ça, il faut le voir très nettement, ce problème. Comment l'intelligence est capable, parce que capacité infinie,
L'intelligence est capable de recevoir des habitus. L'habitus, voyez ce que ça veut dire, hein ? Un perfectionnement, une nouvelle détermination, une nouvelle orientation, une mobilisation de mon capital intellectuel. Il se tourne autour de l'habitus. C'est une greffe. Tout habitus. Ça permet à l'intelligence de se nouer et de s'orienter. Alors, il y a des quantités d'habitus. Métaphysique, mathématique, scientifique, logique. Où se situe l'habitus logique ? La raison. Alors quand l'habitus logique